Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
C'est l'automne, les amis. Alors à vous, les belles recettes rassembleuses récoltées ici à la table des bons vivants ou alors choisies dans les livres ou découpées dans les magazines, ça se trouve aussi. Et à ce sujet, tiens, je voudrais rendre hommage avec la bande ce samedi matin à Elisabeth Scotto. Elle vient de nous quitter cette semaine. Elle a signé pendant des années, vous savez, les fameuses fiches cuisine du magazine Elle. Alors c'est vrai qu'Elisabeth avait le chic pour faire fusionner des ingrédients hein, et leur donner vie dans une cuisine du quotidien avec souvent une dose inattendu, hein, Ophélie. Vous étiez friande de ces petites fiches cuisine aussi?
Alors moi, c'est surtout l'histoire d'une transmission familiale, parce que c'est ma maman qui lit le Elle et qui me découpe quand elle voit une recette où elle se dit que ça pourrait me plaire, elle me le découpe et elle me l'apporte. Donc il y a vraiment un rapport mère-fille. Et oui, en effet, il y a des choses inattendues. Là, pour l'automne, je me souviens d'un agneau au raisin blanc ou d'une gelée de raisin aussi à tartiner, des choses comme ça, de crème de lentilles, des choses un peu inattendues, très modernes, assez décomplexées, qui se font facilement. C'est vraiment quelque chose pour s'essayer, pour grandir dans la cuisine.
Et elle avait d'ailleurs signé un livre avec ses sœurs, hein, Elisabeth Scotto, qui s'appelle « Secrets de cuisine des sœurs Scotto ». Donc on voulait lui rendre hommage, vous l'avez croisé aussi, Emmanuel.
Oui, elle a travaillé un temps au Figaro, donc on l'a croisé. Alors ce qui était impressionnant, c'est que toutes les recettes étaient véritablement faites chez elle, sur place. Donc il y avait aussi cette réalité de la recette qui était pratiquée et de manière ménagère, domestique. C'est vrai qu'elle était toujours ouverte sur le contemporain, mais c'était du vrai beau travail. Là, je regarde quelques recettes. On parlait de cèpes, sauté de cèpes au persil. Mais alors mieux, le carpaccio forestier 2015. Alors là, c'est tout simple, hein, des cèpes qu'on coupe fraîches. Elle faisait revenir de l'huile d'olive avec des pignons de pin. Elle coulait cette huile d'olive sur des... Ça prenait 5 minutes et vous aviez une recette épatante.
Des recettes identifiables, et vous avez raison de le dire. C'est vrai que le cèpe fait partie de ces rares champignons qu'on peut manger cru. On en parlera dans un instant avec Régis Marcon, le chef 3 étoiles du champignon, qui sera avec nous depuis sa belle Haute-Loire. Alors, vous l'avez remarqué, hein, un temps d'automne s'est installé sur une grande partie de la France cette semaine. On va parler météo aussi tout à l'heure avec Evelyne Delia qui sera notre invitée. Qu'est-ce que ça représente, tiens, pour vous, l'automne en cuisine, Ophélie? Est-ce qu'il y a des produits que vous aimez retrouver?
Oui, alors, en plus, là, les produits ont de l'avance. Donc, moi qui suis complètement fan des noix fraîches, elles sont depuis déjà 15 jours, 3 semaines. Et avec ça, on peut, moi, j'en mets partout en ce moment. Donc, évidemment, dans des salades. La mâche qui revient, une salade de mâche avec un peu de figue, un peu de noix, un peu de petites choses.
Vous retirez la peau de la noix?
Bien sûr, alors ça prend beaucoup de temps, il faut un peu d'ongles, mais c'est tellement meilleur parce qu'il n'y a plus de tanin, il n'y a plus d'amertume.
C'est ça, il y a un petit côté lacté, moi je trouve, dans ces noix fraîches.
C'est incroyable, ça apporte beaucoup de douceur. De la pintade, des courges, du chou, moi c'est des choses ça qui me sont... Et puis alors dans les fromages, le Saint-Nectaire et le bleu, ça fait partie des fromages qui me font attendre l'automne, qui me font espérer l'automne.
Ça c'est juste parce que les légumes c'est assez évident, même s'il faut toujours le rappeler, les fruits aussi, mais on oublie que les fromages ont vraiment leur saison quoi. Et ça, ils s'épanouissent à certains moments mieux qu'à d'autres. Effectivement les bleus, les fourmes d'Ambert, pas encore le roquefort on dit toujours qu'il faut attendre novembre. Mais c'est vrai que c'est là où ils s'épanouissent, ils sont à belle maturité, ils sont dans leur intégrité, il faut les manger maintenant.
On est dans de jolis camaïeux d'automne, des notes orangées, marron, jaune. Et vous avez repéré un livre qui célèbre les bois, justement.
Alors, c'est étonnant.
Emmanuel Rubin.
C'est un livre qui vient de sortir en France. C'est une traduction aux éditions Médicis. Il est signé d'un certain Arthur Kizar Erlark. Alors, lui, il est expert en communication alimentaire. En revanche, il a écrit un bouquin qui s'appelle Les saveurs du bois. Et c'est en fait une galerie de rencontres et de portraits à travers le monde de tous les producteurs qui travaillent le bois dans notre rapport à l'alimentation. Alors, bien évidemment, tout ce qui est fermentation, on peut l'imaginer, tout ce qui est aussi, vous savez, le travail de la barrique. Ça, c'est logique.
Mais la sangle d'épicéa pour le Mont d'Or.
Exactement.
Alors.
Mais alors, justement, il rappelle que l'écorce, la racine et la sève que l'on trouve en forêt, eh bien, participent de la cuisine. On sait tous que le pain, par exemple, est véritablement un adjuvant culinaire formidable.
Emmanuel Renaud, flocon de sel, exactement. À Megève, cuisine énormément les bourgeons de pain et les épines de
alors,
pain.
Alors, il rencontre, il va dans le Piémont, il rencontre aussi, puisqu'on est un peu dans la saison, les chasseurs de truffes. La truffe, elle ne naît que si elle est dans un bois ou au-dessous d'un bois. Donc c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit finalement que le bois, c'est une cuisine, c'est un goût, c'est des saveurs. Pas simplement parce que vous allez faire une cuisson au feu de bois avec des cèpes de vigne ou autre, pas simplement parce que vous allez avoir un fumoir, mais parce que véritablement il intervient, y compris comme technique et ustensile.
La truffe, là, c'est la fin de la truffe d'été. Pour la truffe d'hiver, il faut attendre encore un petit peu. Alors c'est vrai que cette saison, l'automne aussi, on l'a vu dans certaines régions, c'est l'occasion de se retrouver autour de repas giboyeux quand même. Hein, le poil, la plume, comme on dit dans la chasse, s'invite à table. Il y a de belles tables giboyeuses, Emmanuel, en France. Hein.
très très belle table joyeuse. Il y a aussi des chefs qui assument complètement d'être des chasseurs. Alors on connaît les plus célèbres, hein, David Bizet à Paris, qui est d'ailleurs un champion du monde du lièvre à la royale. Christophe Pellet, toujours à Paris, l'un des plus célèbres parce qu'il a d'ailleurs rédigé des ouvrages sur ses scènes de chasse et sa cuisine. Nous sommes du côté de l'Alsace. Mais moi j'aime bien un chef, là encore parisien, parce qu'il s'appelle Rodolphe Paquin, on l'oublie un peu. Il a un bistrot qui s'appelle le Repère de Cartouche, le bien nommé Repère de Cartouche. On est rue Amelot. Et lui, c'est vrai que ces dernières années, on essaye de raffiner un peu le gibier, vous savez, de le maniérer un peu, de peut-être lui retirer son côté un peu capiteux. Lui, pas du tout. Il reste dans cette cuisine, un peu des cuivres, de rondeur, des perdreaux au chou. Allez-y. En plus, il travaille vraiment les prix au plus près.
Il y a des femmes qui cuisinent le gibier aussi en France. Hein,
et oui, Ophélie. Moi, je veux rendre hommage aux femmes. Je pense notamment à Hélène Tubac, qui est au 2 Bécasse, à Cerdon de Loiret.
Ah, je connais absolument.
En Sologne. Et alors, notamment, elle fait un bake-off. Vous savez, le bake-off, c'est plutôt alsacien. Et l'idée, c'est de réunir trois viandes. Souvent, c'est bœuf, agneau, porc. Et Hélène Tubac, elle fait un bake-off avec du chevreuil, du sanglier et du col vert. Mais elle pourrait aussi faire des tartares de biche. Alors là, on est plus effectivement dans quelque chose d'assez fin pour ceux qui ont peur des gibiers capiteux. On est sur des arômes extrêmement élégants. Et son petit truc, effectivement, c'est de ne pas faire trop mariner. Et puis avec, bon, bah, y a châtaignes, champignons, noisettes, toute la guirlande.
Et alors, c'est vrai que quand on parle de chef qui cuisine la chasse, il faut ne pas oublier de parler d'Olivier Nasty à Kaisersberg,
voilà,
en Alsace. Olivier Nasty, et j'étais chez lui il n'y a pas longtemps et j'ai dégusté, figurez-vous, tenez-vous bien, un carpaccio de chevreuil. Donc déjà, la viande crue, ça peut faire peur à certaines personnes. Le chevreuil en cru, c'était fondant. Il y avait un petit goût de noisette. C'était d'une douceur et d'une subtilité absolument incroyable.
Mais au-delà des goûts, ce qui impressionne parfois, il faut bien le reconnaître avec le gibier, c'est qu'il y a beaucoup de techniques derrière. Donc c'est vrai qu'en termes de cuisine, c'est parfois délicat de se lancer, mais il faut oser.
Un petit vin d'automne à conseiller pour nos auditeurs, tiens Ophélie Neyman.
C'est le moment de sortir les bouteilles qu'on a oubliées. En fait, les vins d'automne, pour moi, ce sont des vins qui vont avoir ces arômes giboyeux, qui vont avoir des arômes de champignons, de sous-bois, qui vont rappeler les balades en forêt. Et ça, on ne les trouve que dans les vins qui ont développé des arômes tertiaires, des arômes de vieillissement, qui vont avoir 5, 10, 15, 20, 25 ans, ça dépend du vin, mais qui auront déjà passé le côté optimum avec des fruits qui vont trouver plus compotés, plus séchés, et tous les arômes des sous-bois qu'on peut trouver dedans.
Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Oh, écoutez, mais qu'est-ce que je vois ? Un bolet ? Un petit cèpe ? Des girolles, des chanterelles ? Voilà, ça c'est le bruit des pas dans les feuilles mortes. C'est Loïc Vimard qui tenait absolument à nous faire écouter ce son. C'est un homme bucolique, notre réalisateur, on ne le dit pas assez. Et il avait bien raison.
Il porte le bonnet des chasseurs de champignons.
Exactement,
dans un
il a son petit bonnet. Votre champignon préféré de l'automne, tiens Ophélie.
Ça a longtemps été le cèpe et puis j'en ai un peu trop mangé. Maintenant, je suis plutôt girolle. Trompette de la mort aussi.
Les girolles. Emmanuel Rubin.
Moi, c'est un peu les girolles, mais j'ai découvert il y a quelques saisons au restaurant la morille des pins.
Ah, le sparasis crépus.
Exact, bravo. Et c'est assez étonnant. Donc, on est dans la morille, mais une morille beaucoup plus en dentelle, étonnante, qui se cuisine presque à l'étuvée. Vous me rajoutez une sauce, presque une sauce parfois très capiteuse. C'est délicieux.
On dirait un gros chou avec plein d'alvéoles. Et c'est vrai qu'il faut une sauce. Eh bien, figurez-vous que l'homme qui m'a fait découvrir ce champignon il y a de nombreuses années, il est avec nous au téléphone. C'est Régis Marcon, le chef 3 étoiles avec son fils Jacques à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire. Et le champignon, c'est un bonheur familial chez les Marcon. Bonjour Régis.
Oui, bonjour Laurent et bonjour à tous.
Comment
bonjour.
Ça va ?
Écoutez, ça va très bien, d'autant plus que on vit sur le plateau une année un peu exceptionnelle au niveau des champignons.
Beaucoup de pluie ces derniers jours. Et elle se porte comment, la cueillette ? Racontez-nous.
Alors, de très bonnes cueillettes, comme vous savez, de cèpe, ça va par vague, bien entendu. Mais au niveau de la variété, c'est tout simplement un vrai paradis des champignons en ce moment.
Ça n'a pas été trop arrosé encore. On a le bon ratio humidité-chaleur.
Tout à fait. Là, ce matin, on est à 10-12 degrés. C'est un peu plus froid, mais on a eu des belles températures au-dessus de 15 et c'est formidable.
Alors, nos auditeurs, vous le savez, sont avides de conseils pour cuisiner les champignons. Régis, ils vont peut-être y aller ce week-end. Si on rappelait, tiens, tout simplement, les secrets de la poêlée de champignons. Moi, j'ai eu la chance et le bonheur de vous voir cuisiner ces poêlées de champignons dans vos belles cuisines de Saint-Bonnet-le-Froid. Si on prend des girolles, par exemple, rappelons, tiens, les trois commandements de la poêlée de champignons.
Alors, je ne sais pas si c'est trois commandements, mais toujours est-il que le conseil le plus important, à mon avis, c'est d'éviter les fricassés un peu trop grasses. On peut des fois regretter de dire c'est un peu lourd. Les champignons, évidemment, la matière grasse est souvent trop abondante. Alors, je ne suis pas sur les produits Tefal, mais la Tefal reste quand même la poêle qui permet de poêler les champignons sans ajouter trop de matière grasse. Alors après, chacun l'adapte. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une bonne source de chaleur, de façon à ce que quand on met les champignons nettoyés, coupés ou entiers, on puisse les saisir le mieux possible à la poêle, à feu vif, éviter de superposer les champignons.
Et oui.
Vous savez très bien que le champignon, c'est plus de 90% quelquefois d'humidité. Vous allez, ils vont bouillir systématiquement. Et ça ne sera pas le même rendu, bien entendu.
On s'y reprend plusieurs fois, évidemment. Et est-ce que vous êtes un partisan de l'ail et du persil ou pas du tout, hein ? Je voyais la question dans vos yeux, Emmanuel Rubin.
Oui. Est-ce que ça, ces fameuses persillades, est-ce que ça vient abîmer l'intégrité du champignon ou est-ce que ça la renforce ?
Alors écoutez, il y a certaines espèces, forcément, où on évite l'ail. Je parle du meunier, par exemple, qui a un goût très fin, voire les chanterelles. Mais moi, je suis un inconditionnel de l'ail et du persil. Pas le tout, ça, c'est après de le doser, évidemment, une fricassée, on sent que l'ail, c'est un peu dommage. Mais l'ail, il faut le tailler correctement, on le taille, on le hache, mais très très fin. Alors un petit conseil, vous mettez du sel fin, vous l'écrasez un petit peu, et vous allez mettre dans la poêle au dernier moment cette petite pulpe d'ail qui va se mélanger avec l'ensemble, et vous n'aurez pas ce petit morceau d'ail qui va se coincer sous votre dent, qui va rendre l'application un peu trop forte.
Lucie Escourou, la rédactrice en chef, a levé le pouce, justement, parce que ça lui parle, ce morceau d'ail coincé parfois dans les dents. Emmanuel Rubin.
Non, c'était pas une question sur la cuisine, mais c'est un Parisien qui parle. Mais justement, est-ce qu'une journée de cueillette, une journée de chasse aux champignons, est-ce que c'est un peu comme parfois la pêche ? Il faut se lever tôt, il y a des heures, c'est plutôt le soir, c'est plutôt le matin, ça se passe comment ?
Alors, pour moi... Mon cas personnel, ça se passe un peu différemment parce que pour moi, aller aux champignons, et j'y vais très souvent, c'est surtout un moment de détente parce que vous êtes en symbiose avec la nature, vous avez besoin de ce calme. Et après, je ramasse tout, pratiquement tout, y compris même ceux qui sont dangereux parce qu'on apprend dans la forêt, il ne faut pas les mélanger, bien entendu. Et on a la chance forcément à Saint-Benet et surtout au restaurant d'avoir un mycologue à demeure, embauché aux demeures, qui lui avise sur tous les nouvelles... type de champignons qu'on peut trouver dans la forêt. C'est un petit séance et je peux vous dire qu'on se régale à identifier tous ces champignons à la maison.
Et vous aimez tellement les champignons, Régis Marcon, qu'il y a une prochaine fête du champignon qui va avoir lieu chez vous à Saint-Bonnet-le-Froid. Ce sera les samedis 5 et dimanche 6 novembre prochain.
Ah, oui.
Et c'est un événement, ça, parce que tout le village et tous les cafés et tous les restaurants vivent au rythme des champignons, là. Hein.
Ah, c'est une fête qui... réunit presque 30 000 personnes en un jour, donc forcément. Et cette année, la nouveauté, on innove avec un concours de la tarte aux champignons, mais uniquement adressé à mesdames.
Ah, bah très bien. Bah voilà. Et je vois qu'il y aura un repas confectionné par les chefs du village à 24 euros le repas. Hein. C'est bien ça, j'ai des bonnes infos, Régis Marcon.
Ah oui, voilà, c'est la tradition. Alors, je ne vous dirai pas ce qui se passe après. Le champignon a cet essai un peu euphorique qui fait qu'on voit souvent personnes danser sur les tables.
Alors, mangez-moi. Voilà. On connaît. Qu'est-ce qu'on boit, tiens, avec une belle poêlée de cèpe ou une fricassée de girolles au Félinéman ?
Alors, tout dépend de la force gustative du champignon. Hein. Mais l'idée, c'est de ne pas l'écraser. Moi, je suis très fan, évidemment, des beaux blancs un peu gras. Qui vous remplacez la matière grasse, justement. Vous n'êtes pas obligé de mettre énormément de beurre. Si vous avez un blanc très enveloppant, très onctueux, très sensuel, ça va vous envelopper le champignon.
Un condrieux, par exemple ?
Par exemple, un condrieux, par exemple, un rhône blanc. On peut aller, mais il y a même des vaqueras blancs, des choses comme ça. Et puis, on peut, si on a envie de vin rouge, à ce moment-là, je conseillerais peut-être des bourgognes rouges, des vins de la Loire, des beaujolais, des choses assez fines. Je ne veux pas qu'il y ait trop de tanins qui puissent écraser les champignons et qui puissent faire ressortir un côté métallique sur les champignons. Ce serait dommage.
Ah, nous sommes d'accord. Et je renvoie nos auditeurs à votre livre, Régis, Champignons aux éditions de La Martinière. C'est une véritable bible et une encyclopédie. Et vous venez de paraître aux mêmes éditions de La Martinière un livre consacré aux fruits qui s'appelle Fruits, tout simplement. Et je viens de le feuilleter là ce matin, juste avant l'émission. Et j'ai repéré, Régis, une recette de coing farci à l'agneau. Coin. Là, on est en plein dans la saison aussi, là. Hein.
Oui, le coing est un fruit. Moi, personnellement, c'est celui que je préfère en automne. Et associé à l'agneau qui a quand même un petit peu de goût, en fait, je n'invente rien. C'est une recette un peu issue de la cuisine arménienne parce que En ce moment, j'ai beaucoup d'Arméniens comme amis et ils m'inspirent dans la cuisine.
Et ben voilà, le coin farci à l'agneau dans Fruits aux éditions de La Martinière. Merci Régis d'avoir été avec nous au téléphone. Et on vient vous voir à Saint-Bonnet-le-Froid les samedis 5 et dimanche 6 novembre pour la grande fête du champignon, vous pensez bien. Et on retrouvera justement les bons conseils dans la newsletter à table sur Europe 1. C'est gratuit, il suffit de vous y abonner. Tiens, on parlait de vin avec Ophélie. On vous offre une cave à vin, 18 bouteilles. Il faut juste reconnaître un bruit de cuisine. De quoi s'agit-il ? 39, 21, 50 centimes la minute. Vous laissez vos coordonnées ou rendez-vous sur europe1.fr.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.